Bien, bonsoir à vous tous. Il reste quelques places devant. Il se peut d'ailleurs qu'une autre salle ait été ouverte, vu l'affluence de notre public ce soir. Voilà, bonsoir et à vous tous donc, qui êtes présents ici, ou bien à vous qui nous écoutez en direct dans une dizaine de villes. Bienvenue à cette nouvelle soirée des mardis d'éthique publique du Centre Sèvres aux facultés jésuites de Paris. C'est même la 60e du genre qui est organisée en partenariat avec la revue Études et ce soir tout particulièrement avec l'Institut Ricci de Paris. Je profite de cela pour dire que l'Institut Ricci est un département du Centre Sèvres qui propose une formation à ceux et celles qui, s'immisant ou non, recherche une réflexion approfondie sur les traditions philosophiques et religieuses de la Chine, ainsi que sur l'évolution de la société chinoise aujourd'hui. D'ailleurs, un tract qui était disposé à l'entrée de la salle vous en dira un petit peu plus sur l'Institut et ses propositions. Le sujet que nous avons retenu ce soir est évidemment, vous en conviendrez sans peine, de première importance, la Chine dans les relations internationales. Avec une population qui représente un cinquième de l'humanité, une puissance économique qui est la deuxième du monde, et avec le dynamisme commercial que nous constatons prosaïquement dans le moindre de nos achats, sans oublier une force militaire conséquente, avec tout cela, le pays ne manque pas de susciter l'intérêt. Mais la Chine, ce n'est pas simplement une économie, c'est aussi un système politique et idéologique, et nous pourrions l'oublier, et nous aurions tort, ce sont aussi des intellectuels, des penseurs et tout un monde culturel. Alors qu'en est-il de cette puissance dans les relations internationales? Quel rapport avec les pays d'Asie, ou ceux d'Afrique, ou avec l'Occident, et pour quels objectifs? En fin de compte, que recherche la diplomatie chinoise? Et comment procède-t-elle pour arriver à ses fins? Alors pour nous aider dans notre réflexion ce soir, nous avons la grande chance d'accueillir deux éminents spécialistes de la Chine. Je ne pourrai les présenter que brièvement, tant il y aurait à dire, je crois, sur leurs recherches respectives. Madame Stéphanie Balm, vous êtes chercheur à Sciences Po, professeur à Sciences Po, notamment au Centre d'études des relations internationales, engagé également dans l'école des affaires du même établissement. Vous avez été aussi professeur invité à l'Université Columbia aux États-Unis, ainsi qu'à Pékin. Vos travaux s'intéressent au droit public, à la question des droits de l'homme et bien sûr à la Chine. Alors parmi vos publications, qui sont nombreuses, je signalerai simplement « Entre soi », « L'élite du pouvoir dans la Chine contemporaine » en 2004, mais plus récemment « La tentation de la Chine, idées reçues sur un pays en mutation » en 2013, et puis dernièrement « Le procès civil en version originale, comparaison France-Chine-États-Unis ». Monsieur Jean-Pierre Cabestan, vous êtes directeur de recherche au CNRS, professeur au département de sciences politiques de l'Université Baptiste de Hong Kong et chercheur associé à Asia Center de Paris. Vos principaux thèmes de recherche incluent les réformes politiques, institutionnelles, juridiques en Chine populaire, la politique étrangère et de sécurité chinoise. Et parmi les très nombreux ouvrages que vous avez publiés, bien je citerai simplement parmi les derniers, si je ne me trompe, « La politique internationale de la Chine entre intégration et volonté de puissance » ou encore « Le système politique chinois, un nouvel équilibre autoritaire » en 2014 et un peu plus ancien en 2005, « La Chine et ses frontières, la confrontation Chine-Taïwan ». Alors je vous remercie déjà très vivement l'un et l'autre d'avoir accepté l'invitation de parler et de nous éclairer ce soir au Centre Sèvres. Vous allez maintenant intervenir chacun pendant 25 minutes ou à peu près en développant des approches complémentaires et après quoi, et comme d'habitude, le débat s'engagera avec notre auditoire. Alors, Monsieur Cabestan, Qu'en est-il donc de la montée en puissance de la Chine et de l'évolution de ses relations extérieures? Vaste sujet.
Merci, mon père, de cette aimable présentation. Merci d'avoir organisé cette rencontre qui me permet d'échanger avec un public francophone à Paris, un endroit où j'ai été formé aux études chinoises par un certain nombre de professeurs, dont l'un d'entre eux se trouve parmi nous ce soir, Léon Vandermersch, qui a été mon mentor dans l'étude de l'histoire chinoise, notamment l'étude administrative de la Chine. Et je suis très honoré de sa présence et de la présence de vous tous ici, et en particulier des responsables de la revue Études, qui est une revue que je lis avec beaucoup de fidélité. Vous avez fait allusion à l'Institut Ricci, et j'ai des relations aussi de complicité ancienne avec l'Institut Ricci, d'abord à Taïwan, où j'ai fait la rencontre du père Vermander, avec lequel j'ai écrit cet ouvrage sur les frontières, la Chine et ses frontières, la confrontation Chine-Taïwan, et un institut qui est aussi présent à Macao, à San Francisco et ailleurs, et qui fait un travail remarquable de diffusion de la connaissance chinoise. Et je ne peux pas m'empêcher, évidemment, de signaler cet énorme dictionnaire en 7 volumes qui fait la jalousie des anglophones et des germanophones qui n'ont pas un outil de travail aussi complet d'accès à la langue chinoise. Alors, vous m'avez donc à Stéphanie Balme et à moi proposé de parler de la puissance chinoise. On s'est réparti les tâches de manière, vous me direz, presque caricaturale, assez amusante, puisque j'ai été chargé de vous parler de ce qu'on appelle en anglais le hard power, de la puissance dure de la Chine, tandis que Stéphanie concentrera son attention au soft power, ou à la puissance douce de la Chine. Aucune volonté de répartition entre genres de ce thème. Mais ce que je dois dire, c'est que le soft power, et Stéphanie en parlera dans quelques instants, est une idée, un concept beaucoup plus récent en Chine que le hard power. La puissance dure, la puissance traditionnelle, ou les attributs traditionnels à la puissance, c'est une réflexion qui remonte à bien longtemps, et puisque vous connaissez l'histoire chinoise, à l'époque des anciennes, très anciennes même, des royaumes combattants, qui se sont disputés l'hégémonie sur un territoire qu'on appelait la Chine déjà, mais où la dynastie des Zhou était extrêmement faible, jusqu'au jour où l'un de ces royaumes, le royaume de Qin, l'a emporté sur les autres et a créé finalement l'Empire chinois, l'Empire des Qin, qui a donné son nom au terme qu'on connaît de Chine en Occident. Je parle des royaumes combattants parce que cette idée de lutte entre hégémons, entre pays ou États indépendants mais qui se disputent la suprématie, est une idée qui traverse la réflexion stratégique en Chine aujourd'hui encore et qui influence beaucoup de milieux et pas seulement les milieux militaires. Il vient de paraître aux États-Unis un livre écrit par un analyste américain assez connu, plutôt des milieux conservateurs, Michael Pillsbury, et qui a écrit un livre qui s'appelle « The 100-Year Marathon ». Il vient de sortir, il est sorti il y a un mois en anglais, et ça veut dire le marathon de 100 ans, c'est-à-dire que la Chine est dans une course de vitesse, avec les États-Unis en particulier, pour, d'après lui, atteindre une forme de suprématie mondiale et devenir la première puissance mondiale d'ici 2049. 2049 étant la date anniversaire du centième anniversaire donc de la fondation de la République populaire de Chine. Je parle de cet ouvrage parce que c'est intéressant de voir que en Chine, aujourd'hui encore, vous avez donc à la fois cette réflexion stratégique sur la puissance, avec des attributs très traditionnels, et puis une réflexion qui s'est étoffée à travers les contacts avec les autres puissances, les autres pays, notamment l'occidental, mais surtout la puissance américaine, et qui a nourri cette réflexion afin de développer ce concept que vous trouvez beaucoup en Chine aujourd'hui, de concept de puissance globale. Ce concept de puissance globale est intéressant parce que ce n'est pas seulement la puissance militaire. D'abord, la puissance globale s'appuie sur l'idée, sur une puissance économique importante. Et la Chine a démontré, vous venez de le dire, qu'elle était une puissance économique majeure. Elle est la deuxième puissance économique mondiale avec un PIB, un produit intérieur brut de 10 000 milliards de dollars, alors que cours de change, alors que les Américains ont un PIB de 17 000 milliards de dollars. Donc l'économie chinoise mesure, en termes bruts, 60% de l'économie américaine. Et on pense que d'ici 2021, elle pourrait, donc avant 2040, ce qu'avait prévu déjà il y a une dizaine d'années Goldman Sachs, rejoindre en puissance globale économique, dépasser la puissance américaine. Maintenant, l'an dernier, en termes de parité de pouvoir d'achat, elle avait déjà dépassé les États-Unis. Et donc, il y a un fondement économique très évident à cette puissance. Vous avez fait allusion à la donnée démographique qui, autrefois, avait été mise en avant par Mao comme élément de puissance, alors que ça a été, à l'époque de Mao, de Mao Tse-Tung, plutôt un handicap. Mais aujourd'hui, on voit bien que cette masse démographique donne à la Chine un avantage en termes de puissance et lui permet de prétendre, finalement, de manière naturelle, presque méritée, de devenir la première puissance mondiale. Mais les attributs de la puissance chinoise sont plus complets et complexes que seulement économiques. La Chine ambitionne de devenir une puissance scientifique, servie par un travail de recherche et de développement, mais aussi d'innovation, une puissance culturelle, et Stéphanie en parlera tout à l'heure, mais aussi une puissance politique qui développe un modèle d'organisation politique alternatif, différent des modèles occidentaux, et qui, d'une certaine manière, lui fait concurrence et prétend, tout au moins, démontrer que la supériorité de son modèle sur celui des démocraties libérales occidentales. Et puis, évidemment, il y a cette modernisation militaire, dont on parle beaucoup aujourd'hui, puisque le budget de l'armée augmente depuis 20 ans à deux chiffres, c'est-à-dire à plus de 10% par an. Mais il faut bien voir que dans l'esprit des stratèges chinois, cette puissance militaire n'est qu'un des attributs de la puissance globale de la Chine. Estimé d'ailleurs par ce même Pillsbury que je citais au début, à 10% de la puissance globale. C'est intéressant parce que les Chinois savent qu'ils, peut-être, dans le terme militaire, ils ne pourront jamais atteindre, ou tout au moins pas dans un avenir à moyen terme, le niveau de puissance militaire américaine. Mais ils savent aussi qu'ils peuvent, par les moyens qu'ils se sont donnés, par l'effort de défense qu'ils ont déployé, eh bien, devenir la première puissance militaire en Asie et donc, d'une certaine manière, remettre en cause le rapport des forces imposé par les États-Unis en Asie-Pacifique, en Asie orientale en particulier, après la Deuxième Guerre mondiale en 1945, et à travers les systèmes d'alliance que les États-Unis ont mis en place avec un certain nombre de pays de cette région, notamment évidemment le Japon, premier chef, mais aussi la Corée, les Philippines, l'Australie ou la Thaïlande. Donc, puissance globale qui depuis, je dois ajouter cette facette aujourd'hui, puisque depuis 2012 c'est officiel en Chine, la Chine, masse continentale, puissance traditionnellement continentale, veut devenir une puissance maritime. Alors, j'ai malheureusement pas de carte pour vous montrer la situation de la Chine, mais la situation de la Chine sur le plan géopolitique est une situation qui rappelle un peu celle de la Russie de la fin de l'époque tsariste ou même de l'époque soviétique, qui voulait devenir une puissance maritime, avec une façade maritime, évidemment, sur le Pacifique, puis deux façades en Occident, mais contrariée par la géographie. La mer Baltique est une mer intérieure, la mer Noire est une mer intérieure, et donc se poser les questions des détroits, évidemment, pour la Russie ou l'Union soviétique. Pour la Chine, il y en est un peu de même, parce que comme vous voyez probablement la carte d'Asie orientale, mais vous avez autour de la Chine une première chaîne d'îles qui est délimitée au nord par la Sakhaline, puis après le Japon, Hokkaido, le Japon, qui descend jusqu'au Ryukyu, Taïwan, qui, comme vous le savez, reste une partie non contrôlée par la République populaire de la nation chinoise. Et puis, après, les Philippines, le Calan de Bashi, les Philippines, on descend vers l'Indonésie et la mer de Chine du Sud, dont la Chine essaye de prendre le contrôle petit à petit, jusqu'au détroit de Malacca, par lequel passent la plupart des importations chinoises, notamment des importations d'hydrocarbures, de produits stratégiques dont l'économie chinoise a besoin. Donc la Chine n'est pas tellement servie par sa géographie pour devenir une puissance maritime. Cela étant, elle a maintenant aussi cette ambition. Donc la Chine a des ambitions de très grande puissance. La question qui se pose, évidemment, comme toutes les grandes puissances en formation, c'est non seulement cette concurrence avec les États-Unis qui nourrit toute une réflexion sur ce qu'on appelle les transition theories, les théories de la transition de puissance entre une puissance établie, les États-Unis, et une puissance rivale ou en ascension, comme celle de la Chine, mais elle pose la question de savoir si la Chine, eh bien, en affirmant sa puissance, en développant sa puissance, va s'intégrer aux relations internationales, ou va s'intégrer à la communauté internationale, ou au contraire va devenir un défi pour le monde et pour l'ordre actuel des relations internationales, celui qui a été établi par les États-Unis et ses alliés à la fin du deuxième conflit mondial. Donc, en d'autres termes, est-ce que la Chine va être une puissance révisionniste ou une puissance qui acceptera les normes internationales, ou qui accepte les normes internationales? Est-ce qu'elle va être un facteur de stabilité ou un facteur d'instabilité? Ce qu'on peut dire, de toute façon, même sans aller jusqu'à une conclusion prématurée, c'est qu'elle est devenue un facteur de changement dans les relations internationales, notamment sur son pourtour géostratégique, et qu'elle a, même mécaniquement, sans le vouloir, réviser les normes ou réviser l'ordre international sur son pourtour. La deuxième idée, évidemment, c'est de savoir si l'interdépendance, qui a été le résultat de cet développement sans précédent de la Chine et de la politique d'ouverture et de réforme lancée par Deng Xiaoping en 1979, va être un facteur d'intégration suffisant pour une nation comme la nation chinoise, pour une grande puissance comme la grande puissance chinoise. Si la mondialisation de la société, la pluralisation de la société chinoise qu'on observe chaque jour, va servir cette intégration, ou si au contraire, l'État chinois, son nationalisme, ou même ses problèmes intérieurs, et la nature de son régime de parti unique, et ses projets internationaux vont être un obstacle à cette intégration et donc plutôt favoriser cette affirmation de puissance. Et là, je dois dire que depuis plusieurs années, c'est plutôt la deuxième branche de l'alternative que l'on observe. Sans pour autant, et ça j'y reviendrai dans quelques instants, à la fois dans le langage officiel, mais aussi dans certaines des actions de la Chine sur le plan international, que l'intégration soit totalement négligée par les autorités de Pékin. Alors, cette affirmation de puissance, on en parle beaucoup depuis plusieurs années, elle remonte, je pense, à 2008. 2008 a été un tournant à la fois véritable, mais aussi symbolique. Véritable parce que c'était l'année de la crise financière mondiale. La Chine a perçu à ce moment-là un affaiblissement de les États-Unis, un déclin même de la puissance américaine, parce que la crise financière a montré la fragilité du système financier ouvert et libéral organisé autour des États-Unis. Mais c'était aussi un tournant symbolique, puisque c'est l'année des Jeux Olympiques de Pékin, et où la Chine a remporté un nombre de médailles plus important que toute autre nation, et donc que les États-Unis. Et depuis, on observe une volonté beaucoup plus nette de la Chine de s'affirmer dans les relations internationales, d'affirmer une volonté de contrôle de son périmètre maritime ou du périmètre maritime, du domaine maritime qu'elle revendique, notamment en mer de Chine du Sud, domaine contesté, comme vous le savez, entre un certain nombre de pays, notamment le Vietnam, les Philippines ou la Malaisie. Et domaine contesté également en mer de Chine orientale, et qui, dans le conflit, se focalise, se coagule autour de ces îles qu'on appelle les Senkaku en japonais, et Tiaoyu en chinois, et qui ont causé la détérioration des relations sino-japonaises à de nombreuses reprises, et surtout depuis 2008. Donc ce premier tournant était important. On a senti, à partir de 2008, que petit à petit, sans le dire véritablement ouvertement, la Chine de Hu Jintao, puisque c'était encore Hu Jintao qui dirigeait le Parti communiste à l'époque, s'éloignait de cette prudence qu'avait recommandé Deng Xiaoping après le Tiananmen, la formule chinoise qu'on connaît bien dans les milieux sinophones, de Tao Yanghui, qui veut dire maintenir un profil bas, attendre son heure. Eh bien, la Chine, du fait de sa montée en puissance économique et puis internationale, diplomatique, militaire, pensait que cette formule peut-être valait encore d'être utilisée de temps à autre, mais n'était plus le centre de sa politique. Et puis avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, donc à partir de l'automne 2012, je pense que la Chine est passée à un cran supérieur. Là, la Chine a décidé d'être non seulement d'affirmer plus nettement sa puissance, parfois même d'être plus agressive, mais aussi d'être plus active et de devenir une force de proposition, mais qui sert évidemment ses intérêts internationaux dans un certain nombre de domaines. La formule en chinois est devenue Fen Fa Zhou, et ça veut dire essayer de devenir une puissance de proposition et d'initiative et d'activisme sur la scène internationale. Alors, ce changement de stratégie, évidemment, sert des intérêts qui sont des intérêts, pour la plupart, des intérêts permanents de la puissance chinoise et de la Chine, et qui remontent pour certains à 1949 et pour d'autres au début des réformes. Pour ceux qui remontent à 1949, je citerai d'abord, évidemment, le maintien du régime en place et tout ce qui pourrait menacer toute force ou projet qui pourrait menacer le régime de parti unique en Chine, évidemment, est considéré comme hostile. Et donc, s'il y a une priorité parmi les intérêts, ce qu'on appelle en Chine les intérêts fondamentaux du pays, eh bien, c'est bien celle du maintien du régime de parti unique. Ça, faut garder cette priorité à l'esprit parce qu'elle nous permet de mieux comprendre les objectifs de politique internationale de Pékin. Le deuxième, évidemment, c'est la réunification de la nation chinoise, récupérer Taïwan d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est une stratégie pacifique. L'idée est d'enlacer Taïwan dans un réseau de relations économiques, d'interdépendance, asymétriques, mais aussi humains, qui permettront petit à petit de ramener Taïwan dans le giron national. Ça a jusqu'à marché, jusqu'à récemment, de manière assez satisfaisante, sous la présidence de Ma Ying-jeou, le chef d'État taïwanais. Mais depuis quelque temps, notamment à travers la protestation qu'on a pu observer au début de l'année dernière, ce qu'on appelait le mouvement des parasols, on a bien vu que ce rapprochement avait touché une limite et que beaucoup dans la société taïwanaise s'inquiétaient que cette réconciliation avec Pékin aille trop loin et mette en danger les intérêts de Taïwan et l'autonomie ou l'indépendance politique de fait de Taïwan. Mais ce que Pékin appelle aujourd'hui, ceci depuis 2008, ses intérêts fondamentaux, ne concerne pas seulement Taïwan ou le régime intérieur, ou des régions comme le Tibet et le Xinjiang, que évidemment Pékin contrôle et qui ne souhaite pas que l'on remette en cause. Il y a évidemment ce domaine maritime où la Chine, depuis plusieurs années, a affirmé sa puissance de manière beaucoup plus nette. Pour commencer par cette contestation, à partir de 2010-2012, de l'administration des Senkaku Teoyutai par le Japon, qui remonte à 1895, mais que Pékin essaye de contester par une présence de plus en plus nette de garde-côtes ou d'avions dans cette zone, avec la mise en place de ce qu'on appelle une zone de défense, l'identification de défense à la fin de l'année 2013, qui chevauche la zone japonaise et donc qui peut donner lieu à des incidents entre chasseurs japonais qui veulent maintenir leur contrôle de cette zone et chasseurs chinois. S'il n'y a pas de moyens de gestion des crises satisfaisants mis en place entre les deux pays, donc d'où inquiétude américaine. Mais aussi activisme manifeste en mer de Chine du Sud, on en parle beaucoup dans les journaux, qui a commencé à s'intensifier à partir de 2012 avec la prise de contrôle d'un atoll dont on n'avait pas beaucoup entendu parler jusqu'à cette année-là, les Scarborough Shoals, qui étaient occupés par les, ou disons, revendiqués par les Philippins jusqu'à cette année, et dont les Chinois ont pris le contrôle en 2012. Et donc les Chinois interdisant l'accès aux Philippins depuis cette année de cet atoll. Et puis, plus récemment, évidemment, des travaux d'infrastructure qui sont assez importants sur certaines îles ou récifs de la mer de Chine du Sud, qui a amené la Chine notamment à créer des îles artificielles dans les zones de ce qu'on appelle les Spratleys, donc les Nansha en chinois, et qui pose des problèmes redoutables en termes de droit international, mais qui surtout montre bien qu'on est face à un jeu très asymétrique, en fait, entre une Chine qui essaye, qui contrôle pas, qui est loin de contrôler toutes les parties émergées des Spratleys ou de la mer de Chine du Sud, mais qui en contrôle la plus grande part, enfin qui a les moyens d'imposer une présence beaucoup plus forte que les autres pays, que sont notamment les Vietnamiens ou les Philippins, qui sont dotés de moyens militaires ou même en termes de garde-côtes beaucoup plus modestes. Donc il y a là une volonté de changer le statu quo qui cadre mal avec les projets plus anciens de trouver un accord à l'amiable avec les autres pays, notamment mettre en place un code de conduite sur ces conflits territoriaux et maritimes, et donc qui sont de nature plutôt, et qui ont été de nature à tendre les relations entre la Chine et ses voisins, et notamment les pays de l'ASEAN qui sont en conflit sur ces questions avec la Chine. Alors, il y a évidemment un autre objectif qui est beaucoup plus important, beaucoup plus stratégique, mais qui est un peu lié au précédent, c'est de repousser les États-Unis et les alliés des Américains plus loin des côtes chinoises. J'ai parlé de la première chaîne d'île. L'ambition est de rendre cette première chaîne d'île beaucoup plus sûre pour la Chine, donc essayer de réduire les patrouilles américaines ou les vols de reconnaissance des troupes américaines, enfin des forces armées, et de l'armée de l'air américaine qui est basée au Japon. Et donc, petit à petit, essayer de créer une forme de zone de tampon entre la Chine et les dispositifs de sécurité américains dans la région. Et donc, mais à terme, évidemment, l'ambition chinoise est d'essayer de délégitimer la présence militaire et de sécurité des États-Unis en Asie orientale et d'imposer un nouvel ordre de sécurité dans cette partie du monde. Alors évidemment, la Chine est une puissance économique et elle poursuit des objectifs depuis le début de ses réformes qui sont extrêmement liés à l'essor de son économie et puis surtout l'essor de la mondialisation de son économie qui pose des problèmes de sécurité nouveaux, notamment la sécurité des lignes maritimes et la volonté de diversifier les accès aux lieux principaux d'exploitation et d'exportation des hydrocarbures ou des matières premières, et donc de se libérer en partie, tout au moins, de ce qu'on appelle le dilemme de Malacca, où par où passe encore une grande partie des importations chinoises. C'est comme ça que la Chine, par exemple, a construit un oléoduc qui traverse la Birmanie, qui rentre en service l'an dernier, et qui permet d'approvisionner le sud de la Chine, le sud-ouest de la Chine, c'est-à-dire la province du Yunnan, du Guangxi et les autres provinces de cette partie de la Chine directement sans passer par Malacca. Et puis vous avez ce projet beaucoup plus récent, mais qui est sur le papier encore et qui est loin d'être complètement réalisé, de construire un autre oléoduc qui pourrait de Gwadar, donc sur la côte du Pakistan, non loin du golfe arabo-persique, qui devrait permettre d'approvisionner l'ouest du pays, notamment le Xinjiang, en pétrole directement, sans passer par l'océan Indien pratiquement, et donc en contournant à la fois le détroit de Malacca, mais aussi un océan Indien où les États-Unis restent quand même une puissance, la puissance qui permet d'assurer la sécurité des lignes de communication, et donc qui pourrait, en cas de conflit entre la Chine et les États-Unis, évidemment contrarier les intérêts de la Chine. Alors là, je parlais du volet sécurité, mais il y a quand même un autre volet qui est un volet beaucoup plus commercial. La Chine est une puissance commerciale et financière. Et parmi ses objectifs, il y a eu d'abord, vous en souvenez, l'objectif de rentrer à l'OMC, et de devenir une puissance commerciale à part entière qui respecte les règles de l'OMC. Mais depuis, la Chine veut aller plus loin, essaye de mettre en place par des accords de libre-échange bilatéraux, multilatéraux, une zone de libre-échange en Asie orientale qui concurrencerait les projets américains de ce qu'on appelle TPP, de partenariat transpacifique, qui a pour but, quand il sera entré mis en place peut-être l'an prochain ou avant la fin de cette année, de renforcer les liens entre les pays du continent américain et notamment le Japon, la Corée, les autres pays ou l'Inde de la région. Donc la Chine essaye de mettre en place des systèmes partenariats économiques régionaux qui ont plutôt tendance à exclure les États-Unis qu'à les intégrer, et donc essayer d'organiser le libre-échange avec des critères beaucoup plus restreints et beaucoup plus faciles à remplir que les États-Unis, donc faciliter une régionalisation des échanges économiques et donc renforcer la place centrale de la Chine dans la région Asie-Pacifique et surtout sur le continent asiatique. Enfin, un dernier objectif, et là on le voit depuis une vingtaine d'années, c'est l'activisme chinois dans les organisations internationales politiques, comme évidemment l'ONU, ou économiques depuis la crise financière, le G20. Et puis, donc, on voit la Chine, je dirais, pour reprendre une expression de Mao Tse-tung, marcher sur deux jambes. D'un côté, un activisme, une volonté de jouer un rôle plus important au sein de ces organisations internationales. Vous savez que la Chine est le seul pays en développement à occuper un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, et elle le garde jalousement. Son intérêt n'est pas du tout d'ouvrir ce Conseil de sécurité, puisqu'elle est le porte-parole, en quelque sorte, de l'ensemble des pays à la fois émergents et en développement au sein de ce Conseil de sécurité. Mais à côté de cet activisme, au sein des organisations existantes ou nouvellement créées, comme le G20, elle essaye de mettre en place des organisations qui ont pour but de contourner les puissances établies, notamment les puissances occidentales, avec les États-Unis à leur tête, mais aussi de rassembler autour d'elles les pays émergents ou les pays asiatiques. Je pense évidemment, pour prendre deux exemples très connus, la banque des BRICS, les BRICS étant donc Brésil, Russie, Inde et Chine, puis Afrique du Sud depuis quelques années, qui a été créée à Durban il y a 2 ans, et puis évidemment le projet de banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, puisque finalement l'Angleterre et les pays européens ont rejoint cette banque comme actionnaires probablement minoritaires, alors que les États-Unis ont refusé de jouer les actionnaires minoritaires dans une banque qui sera d'abord dominée en termes de capital par la Chine et puis par les pays asiatiques. Alors, ces projets, évidemment, donnent lieu à un certain nombre de contradictions. Je voudrais juste en citer quelques-unes, parce qu'on voit bien qu'il y a une tension entre cette volonté de puissance d'un côté puis cette volonté d'intégration, notamment entre cette affirmation de puissance sur le domaine maritime de la Chine et puis les relations que la Chine peut développer avec ses voisins, notamment ses voisins de l'ASEAN. Ce que j'observe tout de même, c'est que dans l'ensemble, la Chine s'en sort pas mal parce que, tirant parti de cette asymétrie entre elle-même et ses voisins, eh bien, elle est parvenue à gérer ou tout au moins à calmer la plupart des tensions avec ses voisins, y compris avec le Vietnam qui pourtant, l'an dernier, en 2014, a été en proie à un mouvement à la fois organisé par le gouvernement mais aussi par la société de protestation contre la mise en place d'une plateforme pétrolière au large des Paracels ou les Sichas en chinois, donc archipel également revendiqué par le Vietnam. Ce qui est intéressant de voir, c'est que tous les pays asiatiques, y compris ceux qui sont en difficulté avec la Chine, ont rejoint cette banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, et que tous ces pays ont des relations économiques et commerciales extrêmement étroites avec la Chine, qui est devenue pratiquement sans exception pour eux le premier partenaire commercial devant les États-Unis ou même le Japon. Et donc, ils sont dans une situation de dépendance asymétrique qui les oblige à une certaine prudence, modération et, qui favorise la stratégie chinoise. Là, il y a quand même une nuance à apporter à ce tableau, puisque la Chine, évidemment, commerce beaucoup avec ses voisins. Mais quand on regarde ses relations commerciales d'une manière différente, on s'aperçoit que pratiquement les 2/3 ou 3/4 de son commerce se fait avec des pays qui sont développés ou qui sont alliés des États-Unis. Donc l'interdépendance marche ou joue dans les deux sens et peut être aussi pour la Chine elle-même un facteur de vulnérabilité. Cela étant, on observe, et je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail des relations bilatérales entre la Chine et ses grands partenaires, mais à la fois une coopération, mais une rivalité de puissance entre la Chine et ses principaux partenaires. Le meilleur exemple, évidemment, c'est les États-Unis. Vous avez des éléments de coopération évidents qui ont été encore rappelés l'an dernier lors de la visite de président Obama à Pékin lors du sommet de l'APEC, où les deux pays, Chine et États-Unis, ont signé un accord déterminant sur le changement climatique qui va permettre probablement le succès de la conférence de Paris à la fin de l'année. Mais d'un autre côté, la rivalité stratégique l'emporte, enfin, continue de plus belle, mais même s'approfondit. Les milieux américains de la défense étant de plus en plus inquiets face à cette montée en puissance qui, militaire notamment, qui semble défier la suprématie américaine dans la région. Et que la politique de rééquilibrage lancée par le président Obama à partir de l'automne 2011 ne pourra peut-être pas totalement elle-même, donc cette politique de rééquilibrage ne pourra pas effacer ou tout au moins tenter de gérer. Et donc c'est cette interrogation qui évidemment préoccupe beaucoup des voisins de la Chine, d'abord le Japon évidemment, qui est à la fois dans une situation encore plus précaire puisque beaucoup plus proche géographiquement de la Chine et beaucoup plus intégré sur le plan économique et humain avec la Chine, mais aussi des puissances régionales comme l'Inde, qui en dépit de sa participation au BRICS, est aussi dans une relation de coopération, rivalité stratégique avec la Chine. On pourrait poursuivre les exemples, mais je voudrais m'arrêter pour conclure sur... j'ai encore combien de temps ? D'accord, voilà, quelques minutes. Sur une interrogation et un débat en Chine qui porte sur plusieurs éléments. D'abord, c'est savoir si on peut sortir de ce dilemme stratégique. Est-ce que la coopération, l'intégration et les relations bilatérales ou multilatérales sur le plan diplomatique pourront permettre, ou même culturelles, pourront permettre de sortir de ce dilemme stratégique. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la Chine conçoit ses relations étrangères, et là je reviens à cette image des royaumes combattants, à la fois comme des relations de coopération, mais des relations de concurrence. C'est ce que certains analystes chinois appellent une coexistence, plus c'est plus tellement la coexistence pacifique, mais c'est la coexistence combative avec les pays étrangers. S'ajoute à cette considération une autre, c'est que la Chine étant maintenant le deuxième grand, loin devant les autres concurrents éventuels, loin devant l'Inde, loin devant le Brésil évidemment, ou même la Russie qui est une puissance déclinante, eh bien la Chine se voit dans un jeu bipolaire avec les États-Unis, qui évidemment comporte beaucoup de différences avec le jeu bipolaire américano-soviétique de la guerre froide, mais qui présente beaucoup de défis pour l'Occident, mais pas seulement pour l'Occident, mais aussi du fait de la nature du régime chinois pour les démocraties libérales, puisque le modèle chinois est beaucoup plus promu qu'autrefois par les autorités de Pékin, et peut-être que Stéphanie reviendra sur cette question, mais aussi beaucoup plus mieux reçu dans un nombre de pays en développement ou émergents, je pense à des pays comme l'Éthiopie par exemple, qui ont adopté un modèle de développement assez similaire à celui de la Chine. Donc on est face à cette interrogation, mais on doit garder aussi à l'esprit ce qui se passe à l'intérieur de la Chine. C'est-à-dire que cette montée en puissance jusqu'à maintenant s'est passée de manière pas linéaire, mais enfin quand même de manière très très régulière, servie par cette croissance à deux chiffres de son économie, de son armée. Aujourd'hui, on observe évidemment un ralentissement de la croissance, peut-être 6%, ça reste encore évidemment bien plus élevé que chez nous et on envie des taux de croissance aussi importants. Mais pour la Chine, c'est un taux quand même beaucoup plus faible qui pose un certain nombre de problèmes, notamment en matière de création d'emplois et de création d'emplois pour les jeunes diplômés chinois qui sont de plus en plus nombreux. Il y a aussi évidemment des interrogations sur la capacité du système chinois, qui est un système contrôlé sur le plan politique, à innover, à favoriser la recherche et le développement, notamment dans un environnement qui est assez différent de celui des États-Unis ou des pays européens où l'accès à l'Internet, l'échange d'informations sur Internet est beaucoup plus libre. Et puis aussi, c'est là-dessus que je terminerai, c'est l'incertitude que présente l'avenir de son système politique. Pour l'instant, c'est un système qui paraît solide. J'ai parlé de nouvel équilibre autoritaire, mais je pense que ce système est plus contesté qu'autrefois en Chine, et donc présente des vulnérabilités à moyen terme qu'il ne faut pas omettre. Et c'est pour ça, ça pose finalement, et là je guise de transition avec Stéphanie, la question de la réalité du soft power chinois. Ce que je pourrais dire en un mot, c'est que c'est un soft power qui est beaucoup plus déployé, organisé par l'État lui-même que par la société. Et c'est la question évidemment de savoir si la société chinoise, le corps social, les ONG et l'ensemble du pays pourra développer une forme de soft power qui pourra justement compléter cette puissance dure, cette puissance traditionnelle que la Chine a mis en place au cours de ces 20 dernières années, et donc, d'une certaine manière, pérenniser et même consolider la puissance globale de la Chine. Je vous remercie de votre attention.
Voilà, merci M. Gabestan de nous avoir aidé à mettre en place ces éléments principaux de la puissance chinoise, de cette montée en puissance avec un certain nombre d'implications, de conséquences dans sa politique extérieure, dans ses relations de voisinage. Nous aurons l'occasion de revenir sur quelques-uns de ces points tout à l'heure. Je passe maintenant la parole à Mme Balm qui va, d'un autre point de vue, nous parler de la puissance de la Chine. Alors, je crois que vous allez donc présenter un PowerPoint.
Très bien. Formidable.
Alors, je fais une petite remarque à l'usage de ceux qui nous écoutent en direct, c'est-à-dire que ce soir, nous ne pouvons pas retransmettre à la fois, disons, la tribune et le PowerPoint. Donc, je prie de nous excuser, voilà, ceux qui nous écoutent au-delà de ces murs, mais je vous rassure, nous allons procéder à un certain nombre de perfectionnements techniques au cours de l'été, et tout cela sera possible l'année prochaine.
Tout ceci contribuera au soft power du Centre Sèvres. Donc, merci à tous, merci d'être de votre présence et merci mon père de votre invitation. Donc, vous avez donc bien compris, on passe à la seconde phase de cette soirée qui pose la question de la place de la Chine dans le monde. Et pour être absolument certaine de laisser du temps pour le débat, je vais essayer d'être très concise, très brève. Et ce n'est pas du tout une façon de me cacher, dans le sens où certains d'entre vous que je reconnais dans la salle me connaissent en général pour parler de choses beaucoup plus beaux, qui ne sont pas liées au soft power, puisque mon sujet c'est plutôt la question de l'état de droit et donc des questions qui sont internes à la Chine. Alors ma légitimité à poser cette question aujourd'hui et à parler autour de la question du soft power se base sur une étude récente que nous avons publiée à Sciences Po, qui est accessible pour tous, qui est donc une étude publiée sur le Sériscope, qui fait l'état des lieux des différents soft power dans le monde. Et il y a une partie de documentaire qui concerne la Chine et j'étais responsable de ce documentaire. Donc très brièvement, je vais vous communiquer certains des éléments conclusifs de ce rapport. Alors, la question du soft power, alors parfois j'utiliserai soft power, parfois puissance douce, histoire de choquer personne en utilisant un anglicisme. Donc cette question de la puissance douce, en fait, elle est cruciale, si vous voulez, parce que depuis la fin de la guerre froide, elle est un mode complémentaire d'affirmation des États sur la scène internationale, et qu'elle fait référence non pas aux ressources matérielles, mais véritablement aux ressources immatérielles, tout ce qui a fait référence à la culture, à l'innovation, à tout ce qui en fait permet de créer un modèle, de faire un modèle, de séduire des puissances autres et des opinions publiques internationales sans imposer une forme de puissance. Et donc ces ressources immatérielles, on peut se poser la question pour la Chine, qui est maintenant quasiment la première économie mondiale, étant la première économie mondiale, ayant depuis très longtemps un soft power, puisque la Chine est un lieu de passion pour beaucoup, est une source culturelle absolument immense et depuis très longtemps. Paradoxalement, la Chine étant de plus en plus importante et donc de plus en plus au centre de la scène internationale, étant devenue la puissance structurelle qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'elle a plus ou moins de soft power? Nous, notre réponse est de dire qu'elle en a plutôt moins, ou en tout cas que cette évolution n'est pas linéaire, qu'elle se fait par à-coups, et donc il y a un décalage entre la puissance économique de la Chine, ce qu'elle représente sur la scène internationale en termes de hard power, et ce qu'on constate être une forme d'échec de son soft power. Alors, il y a une autre chose qui est assez intéressante, ce qui nous a semblé relativement intéressant, c'est que, de façon générale, le gouvernement chinois a tendance à déconstruire les concepts lorsque les concepts viennent de l'Occident, typiquement sur la base de l'argument de la non-ingérence, par exemple la question de l'état de droit, le principe des droits de l'homme, tous ces concepts qui sont considérés comme étant des concepts occidentaux ne devraient pas être importés en Chine, et la Chine en général cherche à développer ses propres concepts. Or, ce qui est très intéressant, c'est dans le concept de soft power, elle l'a tout de suite pris, c'est-à-dire que bien avant que nous, on s'intéresse en Europe à la question du soft power, la forme d'américanisation galopante de la société chinoise a fait que très tôt, les dirigeants chinois, dès la fin des années 90, ont utilisé le principe du soft power. Ils ont également utilisé le principe de diplomatie publique, ce qui nous a conduit aussi à une réflexion intéressante, qui est qu'on pouvait se demander si la Chine finalement s'intéressait à avoir un soft power dans le reste du monde. Est-ce qu'elle aspirait à avoir une puissance 12? Et il nous a, sur la base de l'analyse de textes politiques de dirigeants chinois, on a bien vu qu'effectivement, il y avait cette forme d'aspiration. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un discours qui parfois peut paraître comme étant anti-occidental, et en même temps une récupération directe des concepts occidentaux, et en fait très peu de critiques de la façon dont la diplomatie publique, dont la puissance se définit à l'étranger. Et donc en fait, on est face à un pays qui ne conteste pas le débat, les termes du débat dans lequel on impose la puissance dans le reste du monde, singulièrement du point de vue américain, réintègre l'ensemble et en même temps échoue largement parce qu'il a une conception extraordinairement étatique du soft power. Alors très brièvement, je voudrais revenir sur 4 points essentiels et encore une fois, je vous prie de m'excuser pour à la fois la brièveté et la simplicité de ces idées, mais je préfère qu'on en discute après. Le premier point, c'est revenir très brièvement sur ce soft power ancien que vous connaissez tous et qui est très intéressant. Ce que j'entends par soft power ancien, c'est la fascination qu'a représenté la Chine de tout temps. J'ai voulu me rappeler la phrase de Montesquieu dans L'Esprit des lois, « Aucun homme renseigné ne peut ignorer l'Empire céleste », ce qui fait que nous-mêmes, nous nous sommes intéressés à la Chine, cette fascination pour la culture ancienne. Le fait aussi qu'avec le déclin de l'Empire chinois à partir des guerres de l'opium jusqu'au milieu des années 50, le déclin de l'Empire n'est pas allé avec un déclin relatif du pouvoir d'attraction de la civilisation chinoise. Et enfin, si on va par là, à définir le soft power contemporain, l'époque maoïste est évidemment le pic du soft power chinois, puisqu'entre les années 50 et les années 80, sans qu'il existe le moindre institut Confucius, sans qu'il existe le moindre concept de diplomatie publique de la Chine, eh bien, il y avait une attractivité planétaire absolument considérable qui nous a apporté ces portraits sérigraphiés d'Andy Warhol dans les années 70 que l'on retrouve encore aujourd'hui. Ce soft power chinois est en déclin, paradoxalement, depuis que la Chine est au cœur de la globalisation, en raison d'un événement évidemment tout à fait particulier et important qui correspond au massacre de 1989, au massacre de juin 1989, qui a considérablement fait chuter l'image dans le monde que l'on pouvait avoir de la Chine. Alors, vous avez sans doute entendu parler des enquêtes produites par cet institut de recherche américain qui s'appelle le Pew Research Center. Et alors, quand on regarde et quand on compare d'année en année l'image de la Chine dans le monde, selon les pays, selon les catégories sociales, depuis 5 ans, cette image ne cesse de s'écrouler. C'est-à-dire que, paradoxalement, cette Chine ne fait pas rêver. Et l'opinion publique internationale, à différents égards, quelles que soient les critiques que l'on peut porter sur ce type d'enquête, mais ce qui est intéressant, c'est de comparer de façon chronologique ces enquêtes, et de façon chronologique, au lieu que l'opinion publique internationale soit de plus en plus favorable à l'égard de la Chine, elle est au contraire à la fois de plus en plus inquiète et de plus en plus négative et très précise dans les critiques qu'elle formule. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'influence du modèle chinois. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour vous dire que la Chine ne représente rien. Elle a effectivement un pouvoir d'attraction. Ce pouvoir d'attraction est lié largement au modèle du hard power et aussi au modèle de son pouvoir économique. Donc c'est ce point-ci, c'est-à-dire ce qu'on peut définir comme le modèle chinois, à savoir un principe de gouvernance d'une incroyable efficacité qui lui a permis de lutter contre la pauvreté à une vitesse N comparativement par exemple à l'Inde. Le fameux consensus de Pékin qui définit un capitalisme d'État très précis, c'est-à-dire une importance de l'État, un État qui doit être efficace, qui doit être mené par un parti unique et qui doit délivrer, dans le sens anglais du terme, des politiques publiques qui soient efficaces. Petite note de bas de page, le consensus de Pékin est en réalité un concept qui a été créé par un économiste américain, ce qui montre aussi le paradoxe de la particularité et la spécificité de la façon dont la Chine se définit son soft power. Bref, ce qui a été appelé l'économie socialiste de marché qui a conduit à tous ces produits made in China et qui projette la Chine de 2030 dans une espèce d'avancée économique extraordinaire. Ce modèle chinois fait recette. C'est aujourd'hui le soft power chinois. Il est évident que même si nous, en Europe, il nous le tente moins, si on projette le modèle du soft power chinois en Afrique ou en Amérique latine, on s'aperçoit là qu'il est extraordinairement puissant. Donc cette sinisation galopante des pratiques de business et cette affirmation croissante dans le monde de la Chine, il est une réalité, mais il n'est pas du soft power. Et c'est là où j'en viens à mon troisième point, qui est l'échec paradoxal du soft power chinois aujourd'hui. Alors il est paradoxal, puisque la Chine est puissante, elle est de plus en plus. Il est paradoxal également parce qu'elle a les moyens, elle aurait les moyens d'être extrêmement puissante, et il est paradoxal aussi puisqu'on pourrait penser qu'il y a toujours un engouement vis-à-vis de la Chine. Je vais vous montrer très vite des cartes que l'on a faites pour ce dossier, qui montrent la présence des enseignements du chinois en France. Et donc sur le plan quantitatif, on pourrait considérer qu'il y a une présence croissante de la Chine et qu'il y a une influence croissante de la Chine. En réalité, c'est pas sur le quantitatif qu'il faut insister, mais c'est sur le qualitatif, à quoi vraiment fait référence cette présence. Et enfin, le dernier point que je voudrais souligner en conclusion, et je me suis permise de reprendre là le titre d'un livre de Jean-François Bilter, qui est un livre extrêmement intéressant, qui s'appelle « La Chine trois fois muette », dont l'idée, pour faire très simple, est de dire plus la Chine est dominante et moins elle a de choses à nous dire. Et parce qu'elle a moins de choses, elle a de moins en moins de choses à nous dire, se pose vraiment la question du sens du modèle chinois, c'est-à-dire quel est véritablement le modèle chinois. Et en fait, ce qui est très important pour nous à poser comme question, c'est deux types de questions. La première, c'est est-ce qu'on peut parler d'un soft power dans un régime autoritaire, encore, ou dit autrement, est-ce que la nature autoritaire d'un pouvoir empêche ce pouvoir précisément de créer une puissance qui fait qu'il s'impose et qu'il peut créer aussi de façon universelle des valeurs qui renouvellent la façon dont on a conçu le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une question importante si la Chine prétend par exemple gérer différemment les organisations internationales. Deuxièmement, où sont les enjeux? Est-ce que les enjeux sont pour nous ou est-ce qu'ils sont pour la Chine? Pour nous, ils le sont puisque la Chine est une puissance structurelle, c'est-à-dire quel que soit le choix que font les autorités chinoises, cela a un impact direct dans notre vie quotidienne dans le monde entier. C'est le principe d'une puissance structurelle. Mais plus encore, il me semble, l'enjeu, il est pour la Chine lui-même de définir quelle est sa culture, quel est son projet et quel est donc le sens de la Chine communiste qui espère pouvoir fêter un jour le 100e anniversaire de la République populaire de Chine en 1949.
Ça, c'est un téléphone.
C'est sans doute le mien, j'espère. Je voudrais m'excuser. C'est un téléphone chinois pour montrer le... Alors, échec. Je voudrais vous montrer quelques exemples, encore assez rapidement. D'abord, la diplomatie culturelle, c'est une diplomatie qui se déploie, qui est décevante, d'une part, malgré de fortes potentialités. Qu'est-ce que cela signifie? D'abord, il y a un nombre incroyable d'agences culturelles qui définissent la diplomatie culturelle chinoise. Les premières et les plus importantes sont les instituts Confucius. Alors, si je vous montre cette carte-là, c'est une carte qui est très significative puisqu'elle montre le positionnement des instituts Confucius dans le monde et de façon très rapide. À la fois, on peut voir qu'il y a très peu de continents dans lesquels il n'y a pas d'institut Confucius, qu'il y a vraiment une cartographie des instituts Confucius dans le monde. Maintenant, si on revient deux minutes au principe même des instituts Confucius, qui se targuent d'être exactement l'équivalent des instituts de France, d'être les Goethe-Institutes, d'être les centres Cervantes, etc. En réalité, quand on regarde encore une fois sur le plan qualitatif, l'écart est absolument immense. Alors, il est immense d'abord parce qu'il est basé sur une contradiction absolument fondamentale et phénoménale, et je vous invite à vraiment à réfléchir sur ce point. C'est-à-dire que les instituts Confucius portent le stigma d'un philosophe qui est un philosophe qui est extraordinairement contesté dans le contexte chinois. C'est-à-dire que s'il y a une figure qui ne fait pas consensus dans la culture chinoise contemporaine, c'est précisément Confucius. Un petit exemple. Je vois que des gens n'ont pas l'air d'accord dans la salle. Le débat va être nourri. Un petit exemple. Lorsqu'il y a quelques années, une statue de Confucius a été érigée tout près de la place Tiananmen, face au nouveau musée national. Eh bien, cette statue n'a pas duré 15 jours. Elle a été déboulonnée sous la pression des internautes chinois et certains intellectuels qui ont quand même rappelé au Parti communiste chinois qu'il avait été fondé en 1921, quelques mois après le 4 mai 1919, qui avait crié haut et fort à bas la boutique Confucius et la fin de la Chine traditionnelle pour créer une Chine moderne, contemporaine, internationale, etc. Et sous cette pression, il a fallu déboulonner la statue. Lorsque, dans les entretiens, j'ai pu demander à mes interlocuteurs et des intellectuels chinois ce qu'ils pensaient du principe des instituts Confucius, beaucoup s'en sont étonnés, c'est-à-dire n'en avaient même pas l'idée qu'il existait des instituts Confucius. C'est un petit peu comme nous, citoyens français, si nous ignorions le fait qu'il existe des instituts de France. Donc il y a à la fois une grande méconnaissance, une propagande qui est tournée à l'extérieur de la Chine pour le soft power, mais qui ne fait pas résonance avec la culture intérieure. Et deuxièmement, c'est un symbole qui est hautement problématique, tant il représente à la fois, bien sûr, la culture chinoise traditionnelle, mais tant il a été, cette figure-là a été molestée à des moments tout à fait cruciaux de l'évolution politique de la Chine contemporaine. Donc c'est moins le fait que ce soit l'Institut Confucius qui représente la Chine que plutôt qu'il soit porté par un projet du parti en présence aujourd'hui, qui est le Parti communiste chinois. Je reviens à ces instituts Confucius qui sont donc disséminés un petit peu partout dans le monde. Maintenant, je vais vous montrer un autre graphe, si vous voulez, qui sont l'évolution des établissements des instituts Confucius entre 2004 et 2011. On est en train de faire un graphe plus récent, mais comme il n'est pas terminé, je vous présente celui-là, qui montre en réalité des choses très intéressantes. C'est qu'il y a eu une évolution très importante entre 2006 et 2009, et que depuis, il y a un déclin du nombre des instituts Confucius. Non pas parce que la Chine est pauvre, la Chine a les moyens d'une très grande politique culturelle, mais parce qu'en fait, il y a une volonté de ne pas mettre en place des instituts Confucius, c'est-à-dire qu'il y a un problème entre l'offre et la demande. L'offre est extrêmement importante, elle vient de Pékin, elle est très bien organisée. La demande est de plus en plus rare, puisque les instituts Confucius doivent être basés dans une institution, dans une des institutions nationales dans laquelle ils s'implantent, et qu'il y a une recrudescence de problèmes, de contestations, de refus d'établissement d'instituts Confucius dans le monde. Cette vague de refus est née aux États-Unis dans les Ivy League il y a quelques années à travers une pétition qui a été lancée et qui devient véritablement problématique. Le principal argument, les deux principaux arguments qui ont été en général énoncés, le premier c'est la crainte d'une perte de liberté académique, intellectuelle, de perte de liberté d'expression. Et donc, en réalité, il faudrait voir au cas par cas, c'est-à-dire je ne dis pas qu'il y a un manque de liberté d'expression, mais il y a une appréhension de la part des institutions qui souhaitent recevoir les instituts Confucius, et cette appréhension en faisant dissensus empêche la création et le développement des instituts Confucius. Ce qui pose véritablement la question, là aussi, du paradoxe de l'influence du soft power chinois. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de soft power, il y a vraiment tous les moyens économiques qui peuvent exister, mais il y a un problème de réceptacle des instituts Confucius. Deuxième critique, c'est qu'est-ce qu'on fait véritablement dans les instituts Confucius ? À la fois, il y a des enseignements de la langue, souvent qui sont des enseignements relativement traditionnels, et puis il y a une partie de la culture qui est en fait une culture qui est réduite au minimum, si vous voulez, au plus petit dénominateur commun de ce qui peut être consensuel et ce qui peut véritablement, précisément, ne pas faire débat ni au sein de l'Institut Confucius, ni à l'extérieur de l'Institut Confucius. Et donc là, le soft power chinois est confronté à une grande question qui est un soft power officiel versus un soft power officieux. En réalité, à l'étranger, ce qui intéresse dans la partie culturelle chinoise, c'est la partie officieuse le plus souvent, c'est-à-dire la partie qui est elle-même censurée en Chine dans le contexte chinois. Et donc, cette volonté de voir des films qu'on ne peut pas voir en Chine, des artistes qu'on ne peut pas, qui ne sont pas exposés en Chine, etc., réduit les instituts Confucius à voir très souvent, et ça doit être très compliqué pour eux de faire leur palette de programmes, de les réduit en fait à un repli sur la culture traditionnelle chinoise, qui du coup rentre en conflit avec leur public, qui sont souvent un jeune public et qui aspirent, comme la culture coréenne, japonaise, etc., à acquérir une culture nouvelle qui est la culture des publics identiques, c'est-à-dire la public des jeunes adultes et des adolescents. Donc il y a véritablement une perte sur le long terme, si vous voulez, de l'attirance et un problème de renouvellement de l'intérêt vis-à-vis de la culture chinoise. Ce qui finalement revient à revenir à cette question de l'enseignement de la langue. Il faut que je regarde ma montre qui est donc sur mon téléphone. J'ai 5 minutes. Ok, qui me revient vraiment à revenir sur la question de la langue. Alors, oui, je pensais que ce serait beaucoup plus visible, je vous prie de m'excuser. Donc, je vous explique très clairement, vous distinguez l'hexagone, j'en suis sûre. Alors, il s'agit d'un travail que l'on a élaboré à partir d'un site internet, qui est le site internet des professeurs enseignant le chinois sur toute la France. Et donc, ce qui est extrêmement bien fait, c'est-à-dire, quelle que soit la région où vous habitez, vous pouvez cliquer sur votre région pour trouver tous les établissements qui permettent de proposer, qui proposent des enseignements du français, du primaire jusqu'au lycée. Et donc, sur cette base-là, nous avons établi... du chinois, évidemment, du chinois. Lapsus non révélateur, du chinois. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a, si vous comparez, évidemment, 20 ans auparavant, l'accès à la langue chinoise est incroyablement plus facile. Très souvent, en fait, ça c'est une petite note de bas de page, très souvent le chinois a remplacé les langues plus traditionnelles sur le continent européen, comme l'allemand en particulier. Sur le plan quantitatif, la langue chinoise, le putonghua, le mandarin, semble vraiment montrer un véritable succès. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est l'aspect qualitatif. C'est-à-dire qu'il y a un décalage absolument considérable entre les entrants et les sortants, entre les premières années et ceux qui restent. C'est-à-dire qu'il y a une perte considérable, sur le plan quantitatif, d'étudiants entre leur première année et effectivement ceux qui, au baccalauréat, choisissent le chinois. Alors vous pourriez me dire, c'est une langue difficile, c'est pas effectivement à ce moment-là qu'on a envie de faire des efforts, il y a un problème d'accès, etc. Mais en réalité, cet écart, il est croissant. Il est croissant, on le retrouve aussi à l'université, ce qui pose ensuite d'autres questions, qui sont à la fois comment le chinois est enseigné, si c'est un chinois traditionnel, il est plus adapté, comment il est enseigné, c'est-à-dire en termes de pédagogie, et puis par ailleurs, au-delà, qui c'est à mon avis la véritable réponse, au-delà de l'intérêt strictement linguistique, qui ne concerne qu'un nombre extraordinairement réduit d'élèves, puisqu'en fait ça réduit finalement la connaissance du chinois à une langue morte, puisque beaucoup n'ont pas accès à la Chine avant très longtemps, et n'ont pas de connaissances culturelles, c'est-à-dire qu'il est difficile pour eux, contrairement à l'anglais, d'écouter de la pop musique chinoise, des YouTube en chinois, d'avoir accès à une culture moderne chinoise qui viendrait nourrir cet intérêt pour la langue. Eh bien tout ça fait... Et par ailleurs, si vous comparez le coréen et le japonais en première année d'université, les taux de réussite en coréen et japonais sont infiniment meilleurs parce que le soft power de ces pays-là est beaucoup plus dynamique. Donc tout ceci fait que quantitativement, on pourrait dire qu'effectivement, il y a un nombre croissant d'étudiants chinois comparativement à il y a 20 ans, mais en fait, il est en déclin. Et sur le plan quantitatif, ce qui vraiment font du chinois une langue importante dans leur structuration intellectuelle, eh bien, c'est un nombre extraordinairement réduit. Alors, je voudrais insister encore sur deux points et ensuite je vais conclure. Un qui concerne le cinéma et l'autre qui concerne les œuvres d'art. On a fait donc dans notre enquête, on a voulu voir, faire une comparaison entre les films chinois qui avaient obtenu des prix lors des festivals importants de cinéma, Festival de Cannes, la Mostra de Venise, la Berlinale, etc., et les films qui étaient censurés. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce qui plaît au public occidental, ce sont les films censurés. Voilà, sans doute de vieilles valeurs occidentales à ne pas modifier, mais donc là, il y a véritablement un écart. Mais cet écart-là, la censure chinoise en est consciente. C'est-à-dire qu'il y a aussi un retour d'expérience de la part dans les cercles intellectuels et dans les milieux de propagande chinois. Et ce genre de tableau existe aussi dans la littérature chinoise où se pose véritablement la question de si on veut être, créer des champions sur le plan des champions, ce qui est tout le temps, on veut en Chine tout le temps faire des champions sur le plan de l'automobile, des éoliennes et du cinéma. Donc si on veut devenir un grand Hollywood, il nous faut aussi pouvoir séduire le public chinois. Et le dernier échec phénoménal connu par le cinéma officiel chinois, c'est lorsque le film sur Confucius est paru, et en fait le film officiel sur Confucius est paru exactement en même temps que le film Avatar, pour ceux d'entre vous qui ont vu le film Avatar. Et donc il y a eu un énorme problème, c'est que la jeunesse est évidemment précipitée pour aller voir Avatar et personne n'allait voir Confucius. Et donc le film sur Confucius a été diffusé de façon obligatoire dans les écoles pour être bien sûr que le film ait été vu. Mais ce film, une fois qu'il a été vu, a posé, encore une fois, Confucius, je reviens à Confucius, je n'avais pas fait le lien, mais le film sur Confucius a posé un énorme problème, puisqu'il montrait une version extraordinairement officielle de la version de l'histoire de Confucius, qui ne correspondait pas à la réalité, et qui aussi a créé des problèmes au niveau de la propagande vis-à-vis des professeurs qui ne voulaient pas assumer le contenu du film. Tout ça pose véritablement la question de qu'est-ce que la culture chinoise. Pour avoir un soft power, il faut avoir une définition minimale de ce qui fait la culture, une culture commune, et c'est véritablement l'enjeu. C'est-à-dire qu'en travaillant sur le soft power, on revient sur des problématiques qui sont des problématiques internes et qui sont finalement quel est le véritable projet culturel de la Chine d'aujourd'hui. Alors, dernier point, je vous l'ai promis sur les questions de l'art. Le poids de la Chine dans les ventes publiques de fine art dans le monde, vous voyez, c'est absolument considérable. C'est-à-dire que la Chine maintenant est en numéro 1. Mais c'est aussi une affirmation de type hard power, c'est-à-dire avec des investissements absolument colossaux et une volonté de vouloir, comment dire, dominer le marché de l'art sur le plan quantitatif, c'est-à-dire sur le plan pécunier d'une certaine manière, mais en réalité... il s'agit très souvent d'œuvres d'art qui ne sont pas vues par le public chinois parce qu'elles ne peuvent pas être vues par le public chinois. Et donc, même s'il y a une instrumentalisation par le pouvoir chinois de ces succès incroyables des ventes d'art en Chine, de la Chine, d'auteurs chinois dans le monde, il n'y a pas de répercussions à l'interne sur l'évolution du marché de l'art. Alors, je vais conclure très rapidement en vous laissant avec quelques idées et puis deux images. Alors, je commande d'abord les images et je vous prie de m'excuser pour ceux qui ne voient pas le PowerPoint. Donc, c'est deux images, en fait, qui sont un clin d'œil. Le premier, c'est effectivement cette image de McDonald's traduite en chinois, qui est la République populaire de McDonald's, qui est souvent un slogan utilisé par les intellectuels chinois pour se moquer de l'américanisation croissante de la Chine, mais américanisation cette américanisation est une véritable question. C'est une américanisation qui réinvente aussi la culture moderne chinoise, mais une culture qui reste peu assumée par le pouvoir officiel. Et à côté, vous avez aussi cette idée d'américanisation de la Chine. Là, il s'agit d'une œuvre d'art de l'artiste Ai Weiwei, qui a décidé de peindre sur un pot de terre cuite datant de plusieurs centaines d'années, Coca-Cola, en disant en réalité cette américanisation, elle ne nous est pas imposée. C'est nous qui la souhaitons. Et par ailleurs, on américanise et on fait de la pop art avec notre culture traditionnelle. Et c'est ça le véritable problème de la Chine contemporaine. Donc ces deux images me renvoient aux réflexions très rapides que je vous propose. C'est à la fois que le soft power, eh bien, c'est d'abord un enjeu pour la Chine elle-même, que pour l'instant, comme dit Jean-François Bilter, elle est trois fois muette, c'est-à-dire qu'elle s'oppose aux valeurs occidentales, elle prétend une spécificité chinoise qui se dit marxiste, et donc en étant spécificité marxiste, précisément c'est une spécificité qui n'est pas chinoise, puisque le marxisme n'est pas une idée chinoise. Donc ce grand paradoxe, eh bien, il sonne bizarrement dans la longue histoire de civilisation culturelle et d'imposition du modèle civilisationnel de la Chine depuis la nuit des temps. La Chine a du mal à s'imposer comme modèle, et les explications que moi je trouve, c'est que son rapport au passé, à l'histoire, à la vérité de son histoire, à sa culture et donc son rapport au monde sont extraordinairement problématiques, et problématiques du fait non pas qu'il s'agit de la culture chinoise, mais du fait qu'elle évolue dans un régime autoritaire. Je vous remercie.
Bon, eh bien, très grand merci pour cette approche complémentaire. Alors évidemment, on a envie de dire puissance d'un côté, impuissance de l'autre, réussite, échec. En tout cas, cela nous montre la complexité, les paradoxes d'une situation. Et bien sûr, c'est tout à fait passionnant. Alors, nous avons du temps, voilà, un peu de temps maintenant pour recueillir quelques questions. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs, qu'il y en a beaucoup. Vous levez bien la main. Alors, voilà, il faudra passer par ce côté, aller un petit peu vers le fond, aux deux tiers de la salle. Nous allons prendre deux, trois, quatre questions. Trois. Monsieur.
Je m'appelle Alexandre Devanoise. Je reviens encore d'un...
Vous parlez bien dans le micro.
Oui, je reviens de 2 mois passés à Xi'an, où mon principal interlocuteur a été le père Jean de Miribel. Alors, lui, sa position par rapport, s'il était là, je me fais un petit peu son porte-parole, c'est d'insister fortement sur la pourriture occidentale. Alors, principal argument, c'est que les États-Unis ont trempé dans tous les conflits du XXe siècle, dans toutes les guerres qu'il peut y avoir dans le monde, les États-Unis sont intervenus. Ça, c'est l'argument numéro un, avec un cynisme qui est fortement dénoncé. Voilà.
Votre question ?
Je n'ai pas de question, je rapporte
D'accord.
ce que j'ai entendu. Alors, si j'aurais une question, c'est pourquoi, après vous avoir écouté, cette distinction entre hard power et soft power, finalement, sur quelle, pourquoi cette dichotomie pour découper la Chine, une approche un peu par le haut, une approche, je ne sais pas si elle est par le bas,
D'accord.
ça assez
entendu. Non, nous recueillons plusieurs questions d'abord. Voilà. Entendu. Merci monsieur. Devant ou à côté.
Bonsoir, Dominique Raoult-Cassin. J'ai deux questions, si ce n'est pas abusé. L'une concerne le Japon. Est-ce qu'il ne faut pas s'alarmer de la détérioration considérable des relations sino-japonaises ? L'autre question concerne la Chine en Afrique. Est-ce qu'on peut parler d'un néocolonialisme chinois en Afrique avec un comportement et un bilan qui devient extrêmement préoccupant ?
Voilà, et nous prenons devant une dernière question. Elle nous vient avec la douce pression de Bordeaux.
Oui, alors, il y avait une question effectivement sur la présence de la Chine en Afrique. Sinon, deux autres questions. Est-ce que être chinois et fréquenter régulièrement une paroisse implique automatiquement d'être surveillé en Chine, évidemment ? Et puis, est-ce que la Chine rêve encore, quelque part, de reconstituer l'intégralité du dernier empire mandchou qui inclurait Vietnam, Népal, etc.
Voilà. Voilà, bon, ça fait beaucoup de questions. Vous souhaitiez, madame, répondre sur un point ? J'ai cru comprendre.
Des petites remarques comme ça, très rapidement. Sur la remarque sur la pourriture occidentale et les États-Unis. Donc, les États-Unis ne sont pas l'Occident, pas complètement. Enfin, c'est une partie de l'Occident. Ça peut être une façon de répondre. Et puis, par ailleurs, les États-Unis ont cette particularité en Chine, c'est qu'ils n'ont pas participé à la colonisation. Et une façon aussi de comprendre parfois les très bonnes relations entre les États-Unis et la Chine, c'est le fait qu'effectivement, les États-Unis, au début du XXe siècle, n'ont pas été une puissance coloniale en Chine. Donc, ça, c'est un point. Ensuite, je pourrais répondre sur le rêve mandchou. Je pense que le principal rêve aujourd'hui, c'est de maintenir les frontières telles qu'elles existent, c'est-à-dire telles qu'elles ont été définies à la fin du système impérial et au moment de la République, la première République, avant la République populaire. Et c'est une problématique qui est difficile avec le Xinjiang et le Tibet notamment. Donc l'idée d'un rêve mandchou qui serait de recoloniser une grande partie qui irait jusqu'en Asie du Sud-Est, à mon avis, là, c'est une menace qui me semble totalement vraiment infondée. Et par ailleurs, la puissance économique de la Chine est telle en Asie du Sud-Est qu'elle se passe de la nécessité d'acquérir ses frontières. La question maritime est différente, mais l'expert, c'est M. Cabestan.
L'Afrique en particulier.
Je vais peut-être prendre les questions les unes après les autres, mais très rapidement pour compléter et confirmer ce qu'a dit Stéphanie. Je crois que chaque société a ses zones d'ombre, ses zones de pourriture, les États-Unis comme les autres, mais beaucoup de Chinois vous diront notre société a aussi des des aspects de pourriture, notamment le niveau de corruption, justement, phénoménal que connaît la Chine, et corruption contre laquelle s'efforce de lutter le président actuel, Xi Jinping. Maintenant, les États-Unis, je ne vais pas essayer de défendre l'implication des États-Unis dans tous les conflits dans lesquels ils ont été impliqués, mais ils ont aussi des responsabilités de sécurité, sans vouloir revenir au deuxième conflit mondial. J'ai toujours vécu dans des pays qui ont été protégés par les États-Unis, d'abord la France, après j'ai vécu à Taïwan, et, qui est un pays également protégé de fait par les États-Unis. Donc je ne considère pas les États-Unis comme toujours une puissance agressive et déstabilisatrice. Je crois qu'il y a une rivalité, et que cette rivalité, on la perçoit à la fois à travers des postures, mais aussi un discours qui reste en Chine justement extrêmement anti-américain, tout en étant contradictoire, parce que beaucoup de modèles de comportement viennent des États-Unis, on l'a vu avec Coca-Cola, beaucoup de Chinois, dès qu'ils ont un peu d'argent, ils s'achètent une maison aux États-Unis ou ils passent leurs vacances aux États-Unis. Et ça me permet de faire la transition avec le Japon, puisque cette année, plus que jamais par le passé, on a atteint un nombre record de touristes chinois au Japon lors du Nouvel An chinois, donc du mois de février dernier. Et que, évidemment, les relations d'État-État entre la Chine et le Japon sont très mauvaises, vont plutôt en s'améliorant doucement depuis quelques mois, hein, depuis le sommet de l'APEC de l'an dernier. Mais les rivalités de puissance restent entières. Dans un contexte qui est quand même un contexte d'intégration régionale et aussi de concertation régionale de plus en plus nourrie, y compris avec, de concertation qui inclut le Japon. Je pense par exemple aux concertations triangulaires entre la Chine, le Japon et la Corée du Sud, qui sont plutôt de nature à essayer de stabiliser la situation. Ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est ça qui est un peu la limite à l'activisme chinois ou même à l'agressivité chinoise sur le dossier des Senkaku Teiryu, c'est que les Japonais sont des alliés des États-Unis et donc ça oblige la Chine à réfléchir à deux fois avant de vouloir déstabiliser ses relations avec le Japon. Sur l'Afrique, oui, le terme de néocolonialisme paraît déplacé. S'il y a une colonisation de l'Afrique par la Chine, c'est de la colonisation humaine de l'Afrique par 1 million à 2 millions de migrants chinois. Mais est-ce que c'est une colonisation? Ce sont des nouvelles vagues migratoires qui sont autant de décisions individuelles de Chinois qui cherchent un avenir meilleur dans une partie du monde où nous autres occidentaux, beaucoup de Français, d'Anglais ou d'autres ont cherché un avenir meilleur dans les années 20, dans les années 30 ou même après-guerre. Donc il y a une présence chinoise évidente en Afrique, présence qui est multiforme, d'abord diplomatique, ensuite économique, étatique, à travers les grands groupes d'États chinois qui ont construit beaucoup d'infrastructures sur le continent africain. Où, évidemment, l'État chinois puise une grande partie de ses matières premières. L'Angola étant devenu le deuxième fournisseur de pétrole de la Chine, le Soudan le troisième, etc. Donc, la Chine est très présente en Afrique. Cela pose des problèmes. Cela pose des problèmes de gestion, d'abord, pour la Chine, qui s'aperçoit qu'elle n'est pas toujours bienvenue, que son modus operandi n'est pas toujours celui qu'on attend d'une puissance, notamment d'inspiration socialiste dans des pays démunis. Et que ça a obligé un certain nombre de corrections, d'adaptations. Je crois que c'est une évolution qui va mettre du temps et qui complique de toute façon les relations entre la Chine et l'Afrique. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Chine est beaucoup plus présente en Afrique, mais elle n'a pas le monopole de la coopération, loin de là. Les anciennes puissances coloniales, les États-Unis, mais aussi les autres pays émergents comme l'Inde ou le Brésil, ils sont de plus en plus présents. Donc c'était l'Afrique où je fais un centre de terrain depuis quelques années, offre un regard extrêmement pluraliste. Et les gens ont fait la part des choses et les Chinois sont obligés de s'adapter s'ils veulent rester présents et rester bienvenus en Afrique. Les paroisses, les activités des catholiques en Chine, alors je ne suis pas du tout spécialiste, comme vous le savez, il y a deux églises catholiques, mais qui sont en grande partie superposées et que je ne pense pas que les catholiques, disons, de la rue soient suivis, mais toute activité qui est un peu trop organisée ou trop liée au Vatican peut encore aujourd'hui faire l'objet, évidemment, d'une surveillance. L'Empire Mandchou, alors, il faut faire la distinction entre les limites traditionnelles de l'Empire Mandchou qui ont été largement reprises par la République de Chine dès la révolution de 1911, à quelques exceptions près. Et puis la zone d'influence de l'Empire Mandchou, les royaumes solitaires, comme vu la Corée ou le Vietnam ou la Birmanie, qui n'ont jamais véritablement fait partie de l'environnement mandchou. Donc là, ce sont des zones qui ne sont pas revendiquées par la Chine aujourd'hui, même si certains historiens pourraient revendiquer la Primorie, vous savez, la région de Vladivostok, qui a été arrachée à la Chine à travers des traités, sur la base de traités considérés comme inégaux par la Chine. Mais je crois que la Chine n'a pas intérêt ni la volonté de déstabiliser ses relations avec la Russie, avec laquelle elle est plutôt aujourd'hui en phase.
Nous pouvons prendre un deuxième et dernier jeu de questions. Voilà, monsieur.
Bonjour, Vincent Grillon. Je voudrais vous poser une question à monsieur Cabestan, qui a brossé le portrait des relations internationales en accent sur la façade maritime, certes importante, mais peut-être y avait-il une absence, c'est la Russie. La Russie poussée peut-être par la crise ukrainienne, notamment vers la Chine à nouveau. Alors on sait que les relations Chine-Russie sont très problématiques, mais est-ce que, à l'aune de ce qui se passe en ce moment en Occident, est-ce qu'on ne peut pas réassister à un rapprochement entre ces deux pays? Est-ce que vous pensez qu'il est réel ou qu'il est un peu superficiel? On peut parler aussi de ce vœu de réouvrir la route de la soie, axe terrestre. Et bien sûr, il y a l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. Enfin, qu'est-ce que vous pensez de la teneur de cette hypothèse?
Une deuxième question, monsieur, oui. Non, non, plus haut, monsieur. Au milieu.
Merci. Gérard Bédunot. Alors, ma première question rejoint celle de mon prédécesseur, avec peut-être un additif sur la question ukrainienne. Stéphanie Balba a bien cité le principe de l'intégrité territoriale. Donc, quelle est la position de la Chine vis-à-vis de ce problème ukrainien, et en quoi ceci peut modifier, et vous avez cité Vladivostok, les relations entre avec la Russie. Deuxième question, un peu plus technique, dans la puissance globale, il y a aussi la puissance financière que vous avez évoquée. Il y a un problème qui est sous-jacent, c'est la convertibilité du renminbi. Où est-ce qu'on en est, où va-t-on, et peut-être sur quelle échéance? C'est un élément souvent négligé, mais fort important de la puissance chinoise. Merci.
Voilà, puis une dernière question, je crois que c'était madame. C'est une madame, et on arrêtera avec cette question. Je suis désolé.
Oui, merci. S'il vous plaît, après un peu l'échec du modèle de Confucius, qu'en est-il aujourd'hui du taoïsme? Est-ce qu'il est encore présent? Est-ce qu'il a une... Et également de toute cette présence qui est étrangère, bien sûr, mais qui est le bouddhisme. Merci.
Voilà. Monsieur Capestan, d'abord.
Oui, ça fait beaucoup de questions. Effectivement, merci d'avoir posé des questions sur la Russie. C'est vrai que j'avais un peu fait l'impasse. Enfin, j'en ai pas beaucoup parlé. C'est un partenaire important de la Chine, et ça depuis déjà, en fait, les années 90. Le démantèlement de l'Union soviétique a plutôt, après quelques années d'incertitude, favorisé un rapprochement Chine-Russie qui s'est consolidé au cours des dernières années. Et la crise ukrainienne a plutôt confirmé cette tendance que l'inverse. On aurait pu croire qu'avec l'annexion par la Russie de la Crimée, de manière tout à fait unilatérale, et en violation des traités internationaux, notamment du traité des accords de Budapest, eh bien la Chine allait condamner la Russie. Mais je pense que dans cette affaire, la Chine était prise face à un dilemme. Évidemment, la Chine pense à Taïwan et pense à tout ce qui pourrait aller à l'encontre de l'intégrité territoriale et de ses principes fondamentaux de politique étrangère. Mais je pense qu'en l'occurrence, sa relation stratégique, son partenariat stratégique avec la Russie a primé. Et donc la Chine est restée extrêmement discrète sur la Crimée ukrainienne, sur la Crimée, afin de continuer de se rapprocher de la Russie, dont elle a besoin dans un certain nombre de secteurs, notamment en termes de fourniture d'armement moderne. Vous savez, depuis les années 2000, la Russie fournit à la Chine des armements, notamment des avions, des bateaux, des sous-marins, sophistiqués que la Chine n'a pas encore les moyens de fabriquer elle-même. Et donc, il y a une relation extrêmement étroite. Alors, cela étant, évidemment, c'est une relation aussi de puissance. Et la Chine conçoit cette relation de puissance, mais aussi la Russie, comme une relation de concurrence. Et vous avez des zones de concurrence que je n'ai pas évoquées, et que le projet de Xi Jinping de route de la soie terrestre, ou plus que de route de la soie maritime, mais ce projet qui complète la route de la soie maritime, donc c'est le Itai-Ilu, c'est la partie Itai de Itai-Ilu, eh bien, est de nature à viver cette concurrence, notamment dans une région que vous connaissez, évidemment, que vous avez à l'esprit, qui est l'Asie centrale. Alors la Chine, pour affirmer, disons, ou défendre ses intérêts et essayer d'amener tout le monde à la même table, à créer cette organisation de coopération de Shanghai à la fin des années, au début des années 2000, et elle en a tiré avantage pour y accroître son influence en Asie centrale, qui est constituée de 5 républiques, autrefois partie prenante de l'Union soviétique. Et aujourd'hui, avec la crise ukrainienne, justement, des pays comme le Kazakhstan se trouvent pris en sandwich entre une présence chinoise sur le plan économique, mais aussi diplomatique de plus en plus forte, et puis des inquiétudes du côté de la Russie, parce que Poutine a souvent fait référence au caractère artificiel des frontières entre de ce nouveau pays issu de l'Union soviétique, notamment du Kazakhstan. Comme vous savez, il y a 20-25% de Russes au Kazakhstan, et donc les Kazakhs eux-mêmes sont inquiets de l'évolution de la Russie. Donc c'est une relation qui est à la fois de concurrence et de coopération, mais là l'élément coopération, et je dirais même complicité stratégique, l'emporte et est amené à l'emporter du fait du refroidissement durable des relations entre l'Occident et la Russie. Sur la convertibilité du Xi Jinping, je ne suis pas du tout spécialiste, je vais répéter ce que dit mon ami et collègue très bien Jean-François Di Miglio, c'est qu'on va vers jusqu'à maintenant, on est allé vers une internationalisation du GMP, sans pour autant que cette monnaie devienne convertible. La convertibilité, elle est peut-être possible, envisageable, à horizon de 5 ans, en tout cas 10 ans. Mais moi, j'observe quand même la grande prudence des autorités chinoises pour tout ce qui concerne la circulation libre des capitaux. Et donc, je les vois quand même évoluer plutôt avec prudence. Il y avait une troisième question. Je pense que les religions, le fait religieux en Chine est pluriel. Chine plurielle porte bien son nom. Il est extrêmement vivace dans toutes les branches des religions, à la fois orientales et d'origine occidentale. Le taoïsme renaît, le bouddhisme renaît. Des organisations avec des activités qui dépassent les activités religieuses, qui touchent évidemment aussi aux activités caritatives. Ça favorise d'une certaine manière les relations à travers le détroit de Taïwan, parce qu'un certain nombre d'organisations religieuses proviennent de Taïwan et des activités caritatives en Chine notamment. Donc c'est un phénomène qui est très intéressant. Et alors moi, comme politiste, ce qui m'intéresse évidemment plus particulièrement, c'est les implications politiques de ce fait religieux, de cette autonomisation de la société, et puis de l'engagement politique d'un certain nombre de personnes qui ont des activités religieuses. J'observe que ce sont plutôt les protestants, d'ailleurs, qui sont les plus actifs et les plus dissidents, mais ce ne sont pas les seuls. Et je pense que le phénomène est à suivre, puisque c'est une partie de la culture chinoise, peut-être du soft power chinois qui revient, qui renaît à travers ce phénomène religieux.
Sur cette dernière question, justement, oui.
Oui, je pense que votre question, je vous remercie, permet en fait de préciser quand il y a il faut bien noter l'importance de la religion dans la Chine d'aujourd'hui, quand bien même c'est un régime qui est officiellement athée, c'est dans la constitution chinoise, et ça M. Cabestan l'a dit, et c'est vrai pour absolument l'ensemble des religions. Il y a également un renouveau confucéen qui se retrouve dans la culture populaire quotidienne. Si ce sujet vous intéresse, il y a un livre extraordinaire qui vient de paraître sous la plume de Sébastien Biliou et Joël Toraval qui s'appelle, dans mon souvenir, Le Sage et le Peuple, qui est une enquête anthropologique sur le renouveau du confucianisme au quotidien dans les entreprises chinoises, dans le milieu éducatif, où il montre bien effectivement que la nouvelle génération des classes moyennes chinoises aspire à éduquer leurs enfants dans des instituts qui sont extrêmement traditionnels. Par contre, ce qu'il faut bien distinguer, c'est ce renouveau de la culture populaire se distingue d'une instrumentalisation politique du confucianisme, et elle est contestée, cette instrumentalisation, parce qu'en fait, elle ne fait pas culture commune, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, sous l'égide du Parti communiste, l'idée que le Parti communiste doit réhabiliter le confucianisme, parce que dans le cas ou d'une instrumentalisation, c'est la partie la plus conservatrice du confucianisme qui renaît, à savoir une exigence de stabilité sociale, c'est la partie du paternalisme, c'est l'État centralisé autoritaire, donc refus d'un débat sur le fédéralisme, etc. Et donc c'est effectivement très important de suivre les discours politiques tenus par les dirigeants chinois sur le confucianisme aujourd'hui, et également aussi une pratique qui va avec le confucianisme, qui conduit à suivre le culte de l'empereur en allant dans la province du Shaanxi à Huangling et régulièrement justement aller prêter allégeance auprès de l'empereur. Et donc c'est ce lien entre le confucianisme traditionnel et le retour à un modèle politique du système impérial fait tout sauf consensus, même si le renouveau confucien au quotidien est une réalité.
Voilà, bien merci à vous. Nous allons arrêter cette soirée. Merci. Merci à vous pour votre présence et bien sûr à M. Cabestan et Mme Balm, voilà, pour les approches tout à fait passionnantes et vraiment très, très éclairantes que vous nous avez apportées ce soir. Un très très grand merci. Je vous indique que si vous continuez, vous souhaitez certainement continuer à réfléchir sur la Chine, à vous informer, eh bien vous pouvez disposer des propositions de l'Institut Ricci. Proposition qui couvre à la fois le champ plus culturel, les traditions de la Chine ancienne, mais également la Chine contemporaine, notamment à travers les conférences de Chine plurielle qui ont lieu le samedi matin. Vous trouverez toutes ces informations sur le site de l'Institut Ricci, sur le site du Centre Sèvres également, et un petit tract de présentation de l'Institut Ricci se trouve à la sortie de cette salle. Vous verrez également des urnes qui sont, si vous le voulez, une manière de participer aux frais d'organisation de la soirée. Je vous indique enfin que notre dernier mardi d'éthique publique de l'année aura lieu le 2 juin prochain. Il sera en collaboration toujours avec la revue Études, mais aussi avec les Semaines sociales de France en préparation des assises du mois d'octobre, et portera sur le thème « Quelle place du christianisme dans l'espace public ?». Bonne soirée à vous et à bientôt, j'espère.